Merci Virginie pour ces éléments d'organisation qui paraissent quand même qui sont importants. Donc, très rapidement, donc vous allez, pour certains, candidater pour la première fois pour le réseau des lycées français à l'étranger. Pour d'autres, ça sera peut-être une nouvelle candidature. L'objectif de notre échange aujourd'hui et des informations que nous souhaitons vous faire passer est de vous donner, si vous voulez, le contexte d'un personnel d'encadrement et d'un personnel de direction. Au niveau d'un lycée de l'AEFE. Hein. Notre propos, bien entendu, s'adresse pour les établissements EGD en gestion directe et conventionnée, puisque nous recrutons des personnels de direction pour ces deux types d'établissements. Alors, pour ceux qui sont dans le réseau depuis un moment, vous savez bien ce que ça veut dire, gestion directe et conventionnée. Pour les autres, vous le notez, vous regarderez à l'agence et vous verrez qu'il y a deux types, qu'il y a trois types d'établissements. Donc, les EGD, rapidement, c'est la gestion directe, c'est presque un EPLE. Les conventionnés, c'est un comité de gestion qui gère les finances de l'établissement. Et puis, les partenaires, qui est une troisième strate des établissements de l'enseignement français à l'étranger. Ceux-là, ce sont des établissements totalement privés qui recrutent et qui gèrent eux-mêmes leurs établissements. Tous ces établissements ont une caractéristique très importante qu'il faut que vous sachiez tous, parce que ça sera au cœur des échanges que nous aurons lors de votre entretien. Il y a un mot important, c'est l'homologation. Tous ces établissements sont homologués par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que l'enseignement qui est donné aux élèves du réseau est identique à celui que vous pouvez exercer dans l'établissement où vous êtes aujourd'hui en poste. Donc, je ne vais pas vous faire une description totale de l'agence. Vous pouvez retrouver ça et certainement que si vous candidatez ou si vous avez l'intention de candidater, vous avez cherché, vous êtes renseigné sur ce qu'est l'AEFE. Mais quand même, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons quand même un réseau qui est en expansion. Nous avons près de 580 établissements dans 112 pays du monde. Et à cette rentrée, nous allons scolariser, on l'espère, un peu plus de 400 000 élèves. Donc des établissements dans quasiment tous les pays du monde, avec plusieurs caractéristiques importantes. Beaucoup d'établissements vont de la maternelle jusque voire la terminale, voire la terminale. Certains sont des établissements qui n'ont que du premier degré, mais vous n'êtes pas concerné, parce que s'il y a du premier degré, c'est donc un directeur d'école qui pilote l'établissement et qui assume des fonctions, si vous voulez, de chef d'établissement au regard du fait qu'il est le seul sur sa structure. Dès qu'on a une partie du collège qui est homologuée, c'est-à-dire dès que, vous voyez, on a le début du cycle, enfin, la fin du cycle 3 ou le début du cycle 4, c'est obligatoirement un personnel de direction qui est nommé sur ce type d'établissement. Donc ça veut dire pour vous, je crois que c'est important dans votre culture personnelle, que dans nos établissements, vous avez besoin d'avoir quand même une réelle connaissance du collège et du lycée. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de compétences qu'il faudra maîtriser. Pour ceux qui sont plutôt en collège, eh bien, la réforme du baccalauréat, maintenant qui est un peu lointaine, on attend peut-être une nouvelle, le collège, avec tout ce qu'on sait depuis quelques années. Donc, vous devez avoir cette connaissance des deux établissements, des deux structures, parce que eh bien, vous allez être amené à gérer les examens, par exemple, en collège et en lycée, dans un même établissement. Vous aurez très souvent aussi du premier degré, mais dans ce premier degré, vous serez aidé et accompagné par un directeur d'école, très souvent, en fonction de la taille de l'établissement. Le directeur d'école étant pour vous un adjoint. Au même titre que si vous êtes dans un gros établissement, vous avez des adjoints du second degré, mais le directeur d'école est aussi un des adjoints avec peut-être un secrétaire général, un directeur administratif et financier qui viennent vous accompagner dans les équipes de direction. Là aussi, ce réseau, il est spécifique parce qu'on va de l'équipe de direction à 12 personnes à une équipe de direction où vous êtes tout seul. Donc, c'est aussi une des spécificités de notre établissement, de cet établissement, oui, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors, quand je dis tout seul, vous n'êtes jamais seul. Il y a peut-être des contrats locaux qui font fonction de conseillers principaux d'éducation, peut-être, mais vous êtes le seul détaché que met l'agence dans cet établissement. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, ce qui est quand même très important aussi par rapport à cet établissement, enfin, au réseau et à la mission que vous allez exercer, c'est que, enfin, maintenant en France, vous y êtes habitué, mais vous allez avoir en face de vous des personnels qui ont des contrats de travail très différents. Alors là, il faut vous intéresser à l'agence parce qu'il faut que vous regardiez ce qu'est le décret, la modification du décret 2022 qu'on a modifié en 2022 et qui permet de comprendre les statuts des personnels. Aujourd'hui, rapidement, on les regroupe en trois catégories. Des personnels d'encadrement, vous en faites partie, mais il y a aussi les directeurs d'école. Pour nous, il y a aussi toute la partie administrative. Des personnels formateurs. Alors, en France, on connaît surtout les formateurs du premier degré, les EMFE. On commence à avoir, vous le savez, des formateurs dans le second degré maintenant dans beaucoup d'académies, hein, puisque ça s'est développé d'une manière, je dirais, considérable. Mais à l'AEFE, on a des formateurs du second degré dans beaucoup d'établissements. Et enfin, des personnels d'enseignement, d'éducation ou d'administration. Ce sont nos personnels détachés sur une mission d'enseignement. Ces trois catégories de personnels, bien sûr, sont recrutés différemment, perçoivent des salaires différents. Et je vous invite à regarder un peu tout ça sur le site de l'AEFE pour que vous ayez connaissance un petit peu de ces différents statuts et de ces différents personnels. Vous concernant, vous, chef d'établissement, si, alors je vais laisser après mes collègues bien préciser tout ce qui est la procédure de candidature, le recrutement, etc. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est que vous partez pour une mission de 3 plus 1 plus 1. C'est-à-dire que votre mission à l'étranger, et nous espérons que tout le monde la terminera, elle doit être de 5 ans. Si vous êtes en deuxième mission, ben ça, cette deuxième mission sera la dernière dans le réseau pour l'instant, puisque vous devrez rentrer en France après. Si vous êtes dans votre première mission et si votre âge vous permet de faire deux missions, à ce moment-là, vous pouvez, si tout se passe bien, recandidater pour une deuxième mission et donc faire 10 ans à l'étranger pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est la structure, si vous voulez, des contrats qui gèrent l'AEFE. Et c'est important parce que dans le cadre, nous, on n'a pas de mobilité à l'agence, hein, puisqu'on fait du recrutement. Donc, dans le cadre de vos recrutements, si vous souhaitez, par exemple, au bout de 3 ans, vous voyez des postes qui se libèrent et vous dites, ah, mais j'arrête là où je suis pour aller ailleurs, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour nous, la possibilité de mobilité dans le réseau et donc d'un futur recrutement, c'est au bout des 5 ans. Ce n'est pas au bout de 3 ou 4 ans en fonction des possibilités que l'on peut avoir dans le réseau des lycées français à l'étranger. La mission d'un personnel de direction, elle est centrale. Vous êtes la personne, je dirais, la plus en vue, la plus visible et la plus importante de nos établissements. Les missions principales sont identiques à celles que vous exercez en France, c'est-à-dire que vous êtes personnel de direction avec les mêmes missions qu'en France. Sauf que à l'étranger, nous avons différents interlocuteurs importants qui viennent, si vous voulez, être des impacts à votre mission. La première des choses importantes, c'est que vous n'êtes plus au ministère de l'Éducation nationale. Vous quittez ce ministère pour être recruté par l'agence qui dépend, elle, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça a une signification importante parce que, du coup, un élément important de votre mission sera lié à la diplomatie et à la diplomatie d'influence de la France. Ça veut dire que votre supérieur hiérarchique, c'est l'ambassadeur de France dans le pays où vous êtes. Alors, par délégation, vous aurez ce qu'on appelle un conseiller de coopération et d'action culturelle. Mais c'est bien cet ambassadeur qui est votre supérieur hiérarchique. Ça veut dire que dans tous vos actes, dans tout ce que vous allez faire, dans le rendre compte, c'est bien avec de postes diplomatiques dans un premier temps que ça va se passer. Le deuxième interlocuteur important, bien sûr, c'est l'AEFE. Et on est divisé en secteurs, donc vous aurez des chefs de secteur. Et notre directrice générale, c'est elle qui vous nomme et c'est elle qui signera votre contrat d'embauche. Donc, cette mission-là, elle est impactée. La deuxième impact que vous allez découvrir, pour ceux qui sont déjà en mission, j'espère qu'ils partagent ça avec moi, c'est la relation avec les parents, qui est quand même une relation très différente de ce que vous connaissez dans votre engagement ici. Pourquoi? Parce que les parents, dans notre réseau, ils payent. Ils payent des frais de scolarité. Et donc, vous êtes un service. Bien sûr qu'on défend les valeurs de la République, bien sûr qu'on est dans la transmission de l'enseignement comme en France, mais vous êtes un service puisque les parents payent. Ils attendent de nous une expertise et, je dirais, une excellence à tous les niveaux de tout ce qu'on va proposer dans nos établissements. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la relation aux parents, vous allez voir, elle va être au cœur de votre, par moment, des relations que vous allez avoir. Hein. On va venir vous voir pour. Alors, je ne sais pas même parler des changements de classe, ça, je ne veux même pas en passer, mais ça peut être aussi la mauvaise note. Enfin, la mauvaise note à l'étranger, bien sûr, ce n'est pas un 4, ça peut être un 14, une mauvaise note parfois. Et donc, là aussi, vous verrez que les exigences des parents comme les exigences des enseignants, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on a l'habitude de côtoyer dans l'exercice qui est le vôtre en métropole ou dans les établissements où vous êtes. Le dernier impact quand même important avec les parents, le poste diplomatique, c'est nous, c'est l'AEFE. On est très sollicitant, vous allez voir, et parce qu'on est, on est une belle maison avec des directions différentes et avec un projet qui est vraiment un projet de développement du réseau des lycées français à l'étranger. Et donc l'agence, divisée en nombreuses directions, est là pour faire vivre le réseau et le développer. Alors, dans les directions importantes que vous allez côtoyer, je vous ai parlé des secteurs géographiques, c'est ce qu'on appelle la direction du développement du réseau. On a aussi une direction très importante pour nous, pour chef d'établissement, c'est la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Parce que vous n'aurez plus les relations que vous avez avec les rectorats et avec les inspecteurs, ça va passer par cette direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Ensuite, on a bien sûr une direction des affaires financières, une agence comptable principale et une direction des ressources humaines que nous avons le bonheur avec Virginie de diriger depuis quelques années. Donc, on est vraiment maintenant une maison assez importante. Nous avons, je crois, 5 690 personnels détachés dans le réseau. Et donc, nous sommes à la tête de tous ces personnels. Donc voilà, c'est un peu rapide, c'est peut-être des grands traits, mais je crois que c'est important de vous donner ces grandes lignes directrices de ce qu'est le réseau. Et je vais terminer mes propos par un dernier point qui est très important, parce qu'il est au cœur du développement, comme je le disais. À partir du 1er janvier 2023, l'agence est dotée d'instituts régionaux de formation dans 16 zones du monde. Pour certains d'entre vous, vous risquez d'être proviseur d'un établissement qui est aussi établissement support de la formation, c'est-à-dire qu'il y a aussi un institut régional de formation, mais tous, vous serez en relation avec cet institut régional de formation qui a deux grands objectifs, je vais me limiter à ces deux, assurer dans un premier temps la formation continue de nos personnels dans le réseau, ceux qui sont là, qu'ils soient titulaires ou des contrats locaux. Et le deuxième axe maintenant de nos instituts, c'est le développement, si vous voulez, et la formation de personnels non titulaires qui auront vocation à aider le développement du réseau et donc à venir enseigner dans nos établissements partenaires, mais peut-être aussi dans un établissement parce que vous allez avoir besoin de recruter locaux et peut-être qu'ils candidateront dans un de vos établissements au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai essayé de vous dresser très rapidement. Un portrait de cette maison. Je reviendrai après sur votre engagement, parce que je crois que ça, et j'y tiens vraiment, parce que ça, c'est vraiment parfois ce qui peut faire échouer une mission à l'étranger. Je vous ai dit, c'est la même chose, et on a malheureusement, vu le nombre de chefs d'établissement, on en a quelques-uns qui ne vont pas au bout de leur mission. Ce n'est pas souvent par rapport aux compétences professionnelles. Hein. C'est très rare, puisque d'abord on vous sélectionne, donc on va étudier vos dossiers. Ensuite, vous aurez un entretien avec l'inspection générale, etc. Ça vous est expliqué. Donc, quand on vous recrute, c'est que les compétences que l'on recherche d'un personnel d'encadrement, vous les avez. En revanche, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est votre capacité à vous adapter dans un pays à l'étranger, avec des us et coutumes différents, avec une relation différente parfois avec des parents, un poste diplomatique, et avec une sollicitation très importante à la fois des familles, des parents et de l'AEFE. Et ça, c'est au cœur de la réflexion que vous devez avoir avant de partir ou de candidater chez nous. Enfin, je pourrais continuer pendant 1 heure, mais je m'arrête. Je vais laisser les autres collègues poursuivre cet échange.
Donc, merci Monsieur Pujol. Donc, je vais vous présenter le processus de recrutement en vous rappelant que le site de saisie des candidatures et des postes sont publiés depuis le 6 septembre et ce jusqu'au 28 septembre inclus. À ce jour, 45 postes sont à pourvoir, dont 26 postes de chef d'établissement et 19 postes de chef d'établissement adjoint. Avec un petit rappel, le poste de proviseur au lycée français de Dublin s'est rajouté en début de semaine à la liste des postes à pourvoir. Et vous pouvez consulter ce profil détaillé sur le site de l'agence, à l'instar des autres profils. Donc, je fais un petit rappel des modalités d'envoi des dossiers. Donc, l'envoi des dossiers se fait dans un premier temps via France Transfert, sans la page des avis hiérarchiques et en un seul PDF, en essayant de respecter au maximum l'ordre des pièces détaillées dans le dossier. Donc, la date d'envoi limite de ce dossier est fixée au 5 octobre. Le dossier papier, vous devrez également l'envoyer parallèlement au supérieur hiérarchique pour recueillir les avis. Donc là, je vous invite à vous référer à la dernière page du dossier, de la version définitive du dossier, hein, pas la version brouillon, où donc cette dernière page explicite le circuit détaillé pour la transmission des avis hiérarchiques. Donc la dernière page des avis sera envoyée au final au bureau du recrutement, soit par le recteur ou la rectrice si le candidat est en poste en France, soit par le poste diplomatique si le candidat est en poste à l'étranger. Donc le bureau du recrutement envoie un accusé de réception aux candidats et candidates une fois que le dossier est complet, c'est-à-dire la première version du dossier envoyée par France Transfert, complétée par la page des avis hiérarchiques. Et une petite précision, lors de la saisie de votre dossier, d'éviter si possible l'adresse mail académique et privilégier les adresses mail personnelles, parce que chaque année, on a des petits soucis de transmission des dossiers via les adresses académiques. Maintenant, un petit focus sur la procédure de recrutement. Donc, après réception, enregistrement des dossiers, le bureau du recrutement commence la phase d'étude des dossiers en elle-même, afin de sélectionner les candidats qui sont retenus en entretien. Donc, je vous détaille quelques critères essentiels pour la sélection des dossiers, notamment pour les personnels de direction. Donc, il faut être titulaire du corps des personnels de direction, justifié d'un minimum de 3 années de service effectif dans le dernier poste occupé. Donc, la situation est évaluée à la rentrée 2024. Hein. Il faut également justifier, si possible, une expérience avérée en France ou à l'étranger en cohérence avec les vœux que vous allez formuler dans votre dossier. Également, être capable de s'exprimer couramment dans une langue étrangère pour les postes où la maîtrise de la langue est exigée. Donc là, je vous invite à vous référer au profil détaillé des postes pour voir les niveaux de langue demandés. Et comme l'a évoqué tout à l'heure M. Pujol, si possible, posséder une expérience, une connaissance du collège et du lycée. Donc après la phase de sélection des dossiers, viendra la phase des entretiens. Donc je vous rappelle les dates. Donc les entretiens auront lieu du 18 au 22 décembre 2023 pour les personnels en poste à l'étranger, du 15 janvier au 2 février 2024 pour les personnels en poste en France. Pour l'instant, les modalités des entretiens doivent encore être définies. Sur les 3 dernières années, pardon, on a fait tous les entretiens via Zoom, en distanciel.
Juste un mot là-dessus, quand même, pour être très clair avec vous, il y a la tendance sera des entretiens en présentiel. Et des entretiens en présentiel au siège à Paris de l'AEFE.
Très bien, merci. Donc, tous les candidats sont prévenus de la suite donnée à leur candidature, environ une semaine avant le début des entretiens. Donc, soit un entretien est proposé selon les modalités définies dans le courrier et dans le mail d'invitation, soit le dossier ne satisfait pas aux conditions attendues et le bureau du recrutement envoie alors un courriel indiquant les motifs de non-sélection. Donc, ces messages seront envoyés à l'issue de la CCPC, mais pas avant. Alors, le déroulé de l'entretien lui-même, pour les personnels de direction, l'entretien dure environ 40 minutes, avec un temps de présentation de 10 minutes, suivi d'échanges avec les différents membres de la commission sur le temps restant. L'entretien doit notamment permettre de mettre en évidence les motivations du candidat pour rejoindre le réseau, les atouts du parcours professionnel, l'adéquation de la candidature avec les vœux formulés, la connaissance du réseau AFE, ses enjeux et les spécificités de ces établissements, et surtout la projection du candidat ou de la candidate sur le métier de personnel de direction à l'étranger. Alors, en amont de l'invitation, l'invitation comporte notamment deux éléments. On envoie la composition de la commission d'entretien aux gens invités en entretien, ainsi qu'une note explicitant tout le déroulé de l'entretien. Donc, à l'issue des entretiens, tu avais la phase de positionnement interne, des candidats retenus sur différents postes à pourvoir. Les propositions de l'administration seront validées si la date ne change pas à la CCPC du 21 février 2024. Et donc, à la suite de la CCPC, le bureau de recrutement se charge de l'envoi des propositions de poste aux candidats retenus, avec un délai de réponse d'environ une semaine. Et après acceptation du poste par le candidat ou la candidate, le bureau du recrutement envoie les demandes de détachement à la DGRH du Maine et les demandes d'agrément au poste diplomatique. Et une fois que l'arrêté de détachement est obtenu et surtout l'agrément, la phase de recrutement s'achève pour nous et nous transférons le dossier aux collègues de la gestion administrative pour la prise en charge administrative et financière de l'agent. Et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci beaucoup, Mathieu, pour ces compléments ces informations sur le déroulement et l'entretien. Un mot important quand même, parce qu'il peut être, il peut vous empêcher de partir à l'étranger, c'est qu'il y a deux phases administratives importantes. La première phase, c'est l'obtention d'un détachement de la part de l'académie dont vous dépendez. Alors, pour les personnels d'encadrement, on a peu de difficultés pour obtenir des détachements, sauf quand c'est très tardif et quand vous recrutez au mois d'août, mais là, c'est plus compliqué. Et le deuxième élément, c'est l'agrément du poste diplomatique, c'est-à-dire qu'on soumet votre proposition au poste diplomatique, qui, lui, à l'étude de votre dossier et à l'étude de la spécificité du pays dans lequel on est, l'ambassadeur émettra un avis sur l'acceptation de votre candidature. Là aussi, on a très peu de refus, mais ça peut arriver pour des questions vraiment liées à la spécificité du pays dans lequel vous candidatez.
Peut-être revenir sur quelques petits points avec mes collègues. Sur le contrat, déjà, comme on vous l'a indiqué, 3 plus 1 plus 1, mais il y a un mot important, c'est le mot contrat. À l'agence, il n'y a pas de corps statutaire, de corps de fonctionnaire. Donc, c'est bien dans une situation contractuelle que vous serez au niveau de l'agence et détaché, donc sur un contrat. Avec une rémunération, je suppose que les uns et les autres, vous êtes allés voir, et sinon, on vous y invite à nouveau à aller voir la partie réglementaire du Code de l'éducation et le décret 2022. Une rémunération qui sera composée de votre traitement brut indiciaire, soumis à pension civile, hein, puisque même en tant que contractuel, c'est le principe du détachement, vous continuerez à cotiser à la pension civile pour enrichir vos droits. Vous bénéficierez le cas échéant d'une bonification indiciaire en fonction, comme en France, hein, du classement et de la catégorie de l'établissement que vous piloterez. D'une indemnité géographique et de fonction spécifique qui tient lieu d'indemnité de résidence. On ne pourra pas vous donner un montant comme ça, puisqu'il est dépendant du pays et d'un groupe. C'est fixé et réévalué par arrêté du ministère des Affaires étrangères. Voilà. En complément, pas de supplément familial de traitement, mais des majorations familiales qui sont forcément plus importantes que le supplément familial de traitement servi en France, puisqu'elles ont vocation à couvrir les frais de scolarité dans un établissement de l'agence. En parlant de scolarité et d'enfants, nous vous invitons très fortement à vérifier les possibilités de scolarisation de vos enfants en fonction de certains pays. On l'a un peu évoqué avec l'homologation. Tous les niveaux ne sont pas forcément homologués. Il y a parfois des solutions, hein, comme la possibilité de cours par le CNED ou autre, ou d'autres établissements dans la zone qui sont homologués pour le niveau d'études de vos enfants. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, puisque, comme on l'a aussi évoqué, l'expatriation est un projet à la fois professionnel, mais qui est aussi à la fois un projet de vie et souvent un projet de famille. Et donc, nous pensons que c'est très important de se pencher dès la candidature. Parce que, en fonction de la sécurité du pays ou autre, voilà, ce sont des choses qui sont importantes pour nous à vous signaler.
Ce choix que vous faites pour candidater chez nous, comme vient de le dire Virginie Chupin, la DRH adjointe, il faut qu'il soit réfléchi. Je pense qu'il faut qu'il soit réfléchi et réfléchi vraiment familialement, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'on a des collègues qui, au bout de quelques mois, voire d'un an, se rendent compte de la difficulté de partir à l'étranger et du coup vivent un certain mal-être dans l'établissement. Dans le poste où ils sont, et c'est pas l'objectif que nous fixons. Nous, on a envie d'avoir des collègues qui sont heureux d'aller à l'étranger, heureux de découvrir une autre culture, heureux de découvrir un autre mode de vie. Mais tout ça se prépare. Ça se prépare, comme ça a été très bien dit, ça se prépare professionnellement, mais ça se prépare aussi personnellement et familialement. Et on se rend compte malheureusement quelquefois que c'est parce qu'il n'y a pas cette préparation que l'on peut être amené à avoir, si vous voulez, des échecs ou des moments ou des gens qui, au bout de 2 ans, nous disent, eh bien, je ne me sens pas à ma place, j'ai trop de problèmes à gérer la distance, ma famille qui est restée loin, etc. Et donc ça peut poser c'est un vrai sujet, en fait, d'expatriation. D'expatriation. Donc ça me paraît aussi très important. En ce qui concerne votre candidature, comme nous venons de vous l'expliquer, il est important que vous ne fassiez pas qu'un seul vœu, parce qu'un seul vœu, on risque de même pas vous inviter à un entretien. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que que vous ayez une réflexion avec, on vous l'a dit, il y a 40, enfin, il n'y a pas 45 vœux, parce qu'il y a des proviseurs adjoints et il y a les adjoints qui sont à l'intérieur, mais pour des personnels d'encadrement, il y a une trentaine de postes. Donc, il faut que vous démontriez par la candidature que vous avez envie de rentrer à l'AEFE, même si vous avez vu, par exemple, qu'il y a le lycée de Montréal et tout le monde veut aller au lycée de Montréal. Il n'y aura qu'un élu. Donc, ça va être compliqué. Donc, il va falloir regarder d'autres postes et élargir les vœux. Donc, il y a deux choses. Faites une demande de candidature avec plusieurs vœux émis dans les vœux principaux. Et vous avez une autre rubrique qui s'appelle l'extension des vœux. Et n'hésitez pas à cocher l'extension des vœux. En revanche, on peut très bien comprendre que pour des raisons familiales, il y ait des zones du monde où vous ne souhaitiez pas aller. Effectivement, on sait ce qui se passe aujourd'hui dans une zone d'Afrique où on a des conflits et on a des situations de guerre. Je pense à ce que vivent nos collègues qui sont au Mali, au Niger, ou au Burkina Faso. S'il y a des postes qui sont proposés là-bas et que certains disent, moi, je ne veux pas prendre le risque d'amener ma famille là-bas, tout ça, c'est entendable. C'est entendable et ça ne sera pas, ça, au contraire, il faut le dire. Il faut que ce soit clairement explicite lors de l'entretien et que vous n'hésitez pas à le dire. En revanche, le vœu unique pour nous, ce n'est pas la manière dont nous recrutons les gens et c'est vraiment une réflexion, si vous voulez, qui est liée à cette envie d'aller à l'étranger pour faire ce métier, pour porter les valeurs de l'éducation française, pour porter les valeurs de notre système et de notre République française à l'étranger en respectant le pays dans lequel nous sommes. Et les coutumes et les us du pays dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans tous ces pays, nous sommes des invités. Et là, c'est très important que vous sachiez tous, toutes et tous, que votre posture sera regardée constamment, et donc il faudra que vous soyez attentif à la moindre prise de parole ou au moindre engagement que vous aurez dans un pays dans lequel nous vous aurons affecté.
Peut-être pour revenir, je voulais compléter en fait cette projection familiale sur cette expatriation. Effectivement, elle doit être professionnelle, elle doit être aussi familiale pour être réussie. Un point important, c'est qu'en fait, à l'agence, nous ne pouvons pas proposer de poste double, tout simplement parce que dans certains pays, nous avons un seul établissement et, par exemple, si votre conjoint ou conjointe est enseignant, on n'aura pas forcément un poste dans la discipline. Cette dimension doit être envisagée en fait sur les postes de détachés d'enseignement. Il y a une priorité qui est donnée aux conjoints en fait des personnels qui sont nommés sur des postes d'encadrement et de formation, mais ça ne peut pas être une condition, si vous voulez, au vœu que vous allez formuler. S'il y a un poste qui correspond à la discipline de votre conjoint, effectivement, il peut potentiellement être recruté, mais ce n'est pas une garantie, vous ne pouvez pas avoir la garantie d'un poste double à l'étranger. L'agence ne peut vraiment pas s'engager sur ce sujet-là, c'est trop, On n'en a pas la possibilité, en fait. On n'a pas la main sur tout. On nous pose aussi souvent la question des postes doubles de personnes sur des postes d'encadrement et de formation dans la même ville ou dans le même pays. Donc, le principe, c'est qu'en fait, vous pouvez effectivement, les deux peuvent constituer un dossier. Si on le peut, en fait, on recrutera les personnes. Mais après, effectivement, il y a une étude attentive, il y a des fonctions qui ne sont pas compatibles dans le même établissement, voire dans la même ville, en fonction des fonctions exercées par chacun des conjoints. Donc, c'est un point important à prendre en compte dans ce projet d'expatriation au sens large. Effectivement, certains collègues, parfois, partent sur des postes d'encadrement et le conjoint ou la conjointe ne peut pas avoir de contrat de détaché si la personne est fonctionnaire.
Et pas toujours non plus de contrat de droit local en fonction des pays. Voilà, il faut savoir que le conjoint peut ne pas être autorisé à exercer une profession dans le pays. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Et on vous invite donc à vous renseigner un peu sur les conditions justement de travail et d'obtention de permis de travail dans les différents pays.
Alors, peut-être sur ce sujet-là encore un petit mot. Je crois que là-dessus, il est important que vous ayez aussi, que vous ne veniez pas chez nous simplement pour imaginer une bascule financière. Je le dis très clairement, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, donc je vous le dis très sincèrement. Pourquoi ? Parce que imaginons que vous êtes chef d'établissement en France, vous avez déjà un logement de fonction. À l'étranger, il y a très peu d'établissements qui ont un logement de fonction. Vous avez deux emplois, vous, votre conjoint, vous travaillez à deux, et comme ça vient d'être dit, vous pouvez vous retrouver avec un seul salaire. Donc, il faut que ça soit réfléchi et anticipé pour ne pas subir, si vous voulez, l'échec, afin de vivre ça comme un échec ou de se dire que finalement, c'est moins intéressant que je croyais. Bien sûr que la dimension financière est importante et qu'elle est calculée notamment par l'indemnité qui dépend des zones géographiques où vous allez. Elle est importante parce qu'elle prend en compte la sécurité, elle prend en compte l'éloignement, elle prend en compte la santé. Donc, elle peut être très importante suivant certaines zones. En revanche, quand on est en Europe, c'est vrai que c'est beaucoup moins important et on comprend que c'est plus facile on n'est pas très loin de la France, on est sur quasiment les mêmes modèles économiques, donc c'est pas ça qui est l'enjeu. Donc, ayez aussi ce regard, si vous voulez, familial, de ce que vous avez, ce que vous allez. Je vous dis pas ça pour ne pas venir, au contraire, nous on veut que vous veniez. Mais venez vraiment en ayant pris garde à vérifier tous ces paramètres-là pour ne pas être déçu et pour ne pas après regretter un petit peu ce mouvement-là, parce que c'est le but du jeu, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on recrute des personnels compétents et qui soient heureux de mener une mission à l'étranger pendant 5 ans. Mission qui, je peux vous le garantir, sera pleine d'imprévus et sera riche d'un travail de plus de... je sais que les personnels d'encadrement travaillent énormément en France, mais je vous garantis à l'étranger, c'est sans commune mesure avec ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que les sollicitations, justement, sont différentes et ne cessent d'exister, y compris les week-ends, parfois, parce que il y a une manifestation, l'ambassadeur souhaite que vous soyez à ses côtés, et donc il ne serait pas bien vu que vous lui disiez « moi j'ai prévu un week-end à la plage et je ne vais pas y aller ». Donc il ne va pas falloir faire ça, il va plutôt vous falloir être présent à ses côtés pour représenter à la fois l'établissement et à la fois l'AEFE et bien sûr la France auprès de l'ambassadeur de France. Ce sont des choses parfois qui paraissent peu importantes, mais vous avez aussi un rôle de représentation de l'État français et donc vous devez assumer cette posture-là dans tous les postes où vous allez être recruté si vous passez toutes les étapes qu'on a expliquées de la phase de recrutement.
Peut-être préciser que lorsque l'on affiche une langue impérative, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est que vraiment, si vous ne la maîtrisez pas, vous allez vous mettre en difficulté.
Absolument.
Pour répondre à plusieurs questions qu'on a eues là justement sur le chat de la discussion, enfin la discussion par chat, ce qui est utilisé en fait à l'agence, c'est le CECRL, forcément le cadre européen de référence des langues. Il y a peut-être quelqu'un nous signale qu'il ne s'est peut-être pas bien référencé sur notre site, mais en tout cas, c'est ce CECRL qui est utilisé comme référence. Alors, la plupart du temps, c'est une auto-évaluation. On n'organise pas, en fait, de test de langue. Il y a plusieurs moyens en fait de nous justifier en fait de ce niveau de langue. Certains candidats ont fait des évaluations via Internet, ont réussi à avoir des attestations de la part de collègues qui sont par exemple enseignants de la langue dans leur établissement. En tout état de cause, en fait, essayez d'être le plus objectif possible parce que vous déclarez un niveau en anglais bilingue. Si effectivement vous ne l'avez pas, vous serez en difficulté dans les postes où vous avez besoin d'une maîtrise de la langue vraiment importante. Donc voilà, essayez d'être le plus réaliste possible et c'est vrai qu'on n'a pas, on ne conseille pas de nous produire un TOEIC ou des certifications type, mais voilà, il y a toujours des moyens via Internet ou si vous nous avez fait une maîtrise en anglais, bah, effectivement, on peut imaginer que vous avez une bonne maîtrise de la langue.
Et vous savez, je vous ai parlé de la position de l'ambassadeur, notamment sur l'agrément. La non-maîtrise de la langue, par exemple, du pays, dans certains cas, peut amener un poste diplomatique à s'interroger sur votre candidature. C'est-à-dire que nous, on essaiera de pas vous envoyer, là-bas si vous n'avez pas la maîtrise de la langue. En revanche, l'ambassadeur regardera ça aussi dans des pays où, par exemple, aujourd'hui, l'anglais est plus que nécessaire parce que les parents d'élèves, parce que le comité de gestion, parce que l'environnement avec des autorités locales maîtrisent, enfin, c'est l'anglais, mais ça peut être l'allemand, l'espagnol. Si vous déclarez un niveau de compétence, essayez de le déclarer avec la plus de justesse possible pour que, avec le poste diplomatique, ça matche, entre guillemets, et que ça ne pose pas de problème supplémentaire. Peut-être un mot sur la prise en charge des voyages et...
Oui, si vous obtenez un poste à l'AEFE, de personnel de direction, chef ou adjoint, il y a une prise en charge en fait du voyage pour de nomination qui est prise en charge donc pour vous et votre famille, donc conjoint, mari ou pacsé et les ayants droit. Dans ce cas-là, c'est le bureau des voyages et missions de l'AEFE qui prend en charge le voyage. Et il y a aussi le versement d'une indemnité de changement de résidence qui permet de couvrir les frais de déménagement normalement. L'AEFE n'a pas du tout la main sur le calcul de cette indemnité, donc effectivement, je prends quand même quelques précautions. Elle permet de couvrir un déménagement, on va dire, classique. Le principe est qu'en fait, 80% de cette indemnité sont versés à la signature du contrat et les 20% restants sont versés sur production de justificatifs de factures de déménagement. Donc, ça permet quand même un accompagnement, effectivement, à la prise de poste, notamment pour ceux qui partent très loin ou sur des destinations qui sont onéreuses en voyage ou en déménagement. Et la prise en charge est également assurée donc, au retour, à la fin de la mission. Nous prenons en charge le voyage donc, de retour et nous versons à nouveau une indemnité de changement de résidence. Et pendant la durée du contrat, vous avez aussi droit à des voyages de congé. Le rythme des congés, en fait, dépend des pays. Il y a un arrêté qui fixe le temps de séjour, en fait, d'un endroit à congé. Ça peut aller de 1 an dans les pays les plus difficiles, on va dire, à 3 ans sur les pays, par exemple, en Europe. Le rythme est à 3 ans. Donc, là, c'est la prise en charge du voyage pour le personnel détaché et sa famille.
Ça, c'est quand même un accompagnement que nous assumons, que l'agence assume. Et depuis le nouveau décret, cet accompagnement, il est aussi valable pour tous les personnels recrutés, quel que soit le statut. Je vous avais parlé de trois catégories. Quelle que soit la catégorie, aujourd'hui, on considère que ce sont, mais on ne considère pas, ce sont des personnels détachés et tous peuvent bénéficier de ce droit au voyage, à l'indemnité de changement de résidence et au congé. Donc ça, c'est un vrai changement qu'il y a eu, et dans l'attractivité pour les personnels enseignants notamment, c'est un sujet qui a été travaillé et qui a permis de régler quelques notions de postes et de problématiques, notamment dans certains pays d'attractivité. Moi, je voudrais revenir sur votre mission. Je crois qu'il y a trois mots qui sont au cœur de la mission qui va être la vôtre. Le premier mot qu'il faut que vous intégriez, mais d'une manière vraiment importante, c'est l'exemplarité. L'exemplarité à l'étranger, alors c'est certainement la même chose que ce que vous faites aujourd'hui dans vos établissements, mais l'exemplarité, elle est au cœur du regard que vont porter toute la communauté scolaire sur votre action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être attentif. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si on vous a parlé de la difficulté peut-être pour un conjoint de trouver un emploi dans votre établissement. Si vous forcez un petit peu pour que votre conjoint trouve du travail. Si par exemple il est recruté et que par hasard il n'a pas la même grille salariale que les autres recrutés locaux. On l'a connu, c'est pour ça que je le dis. C'est pas ça l'exemplarité. L'exemplarité, c'est justement de respecter les règles du recrutement et les conditions de travail locales qui seront celles de votre établissement pour que vous ne soyez pas mis en cause, quelle que soit la manière dont vous allez travailler. Vous avez un regard important des familles, vous avez un regard important du poste diplomatique par rapport à cette posture et à l'intégrité qui sera la vôtre. Le deuxième mot important de votre mission, c'est l'engagement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne doute pas de l'engagement de chacune et chacun d'entre vous. En revanche, à l'étranger, il est au cœur de la mission. Pourquoi? Parce que souvent, vous n'avez pas les institutions que vous avez en France pour vous épauler. Il n'y a pas de d'AZEN, il n'y a pas, si vous voulez, d'inspection académique, il n'y a pas de rectorat à l'étranger. Il y a quelques inspecteurs de l'éducation nationale, mais ils sont à Paris, donc vous les verrez de temps en temps, mais vous ne les verrez pas toujours. Donc, vous avez très peu de correspondants immédiats et de proximité, et vous êtes le référent, l'unique référent, très souvent, pour toutes les questions qui peuvent être des questions pédagogiques, des questions administratives, tout type de questions reviennent sur le chef d'établissement. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seul pour répondre. Comme je vous l'ai dit, il y a à l'agence différentes directions et il faut au contraire interroger l'agence, interroger le secteur, interroger les directions qui vous aideront à apporter les réponses au personnel et les réponses aux parents d'élèves si besoin était. Mais vous allez être dans cette posture où toute question arrive au chef d'établissement. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on est bien au-delà du cadre simplement pédagogique de l'enseignement ou des questions que l'on peut avoir. Là, on peut avoir tout type de questions, je pense au personnel, sur bien sûr la qualité de vie, sur le suivi de leur situation personnelle, etc. Vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus prégnant que ce que vous avez l'habitude de vivre aujourd'hui. Donc cet engagement, il est dans votre établissement. Il est pour le poste diplomatique, bien entendu, et il est aussi regardé par l'agence. Il est regardé par l'agence. Bien sûr qu'on ne va pas vous demander, on ne va pas regarder tous les matins si vous êtes à la porte de votre établissement et si vous y êtes tous les soirs le dernier à quitter l'établissement. En revanche, sachez que si on ne vous voit pas, ça va très vite se savoir et que le poste diplomatique le saura. Alors, vous ne pouvez pas être partout, on ne vous demande pas d'être partout. En revanche, il y a une notion liée, si vous voulez, à la présence qui est fondamentale dans les établissements dans lesquels vous allez être. Et ça aussi, c'est très important. La deuxième chose, c'est que quand on est à l'étranger, vous êtes le personnel de direction qui doit être au courant quasiment de tout. Parce que vous êtes le responsable et l'unique responsable de tout. Vous êtes responsable des personnels du premier degré, chose qu'en France, vous n'êtes pas, puisqu'il y a très peu d'établissements où il y a une structure scolaire qui va de primaire et secondaire. Vous êtes donc responsable des personnels du premier degré. Ça vous obligera à un moment donné quand même à vous intéresser à ce qu'est le premier degré, à quel est le statut des personnels. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont personnels de direction et qui ont fait un parcours dans le premier degré. Donc ça, c'est un avantage et c'est vraiment un regard important. Vous avez bien sûr une partie budgétaire qui est importante, mais attention, tout va dépendre du type d'établissement dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un EGD, vous êtes ordonnateur secondaire, parce que vous êtes aujourd'hui dans un EPLE. Si vous êtes dans un conventionné, vous n'êtes pas ordonnateur secondaire. Et donc, il y a un comité de gestion qui fait le budget. En revanche, vous êtes un conseiller du comité de gestion, parce que vous savez quels sont vos besoins en termes budgétaires au niveau de toute la pédagogie, de l'enseignement, de votre projet d'établissement. Et donc, c'est que vous allez solliciter ce comité de gestion pour établir avec eux le budget qui vous permettra de fonctionner et de faire évoluer votre établissement. Et vous allez être aussi, si vous êtes responsable parfois de l'immobilier, vous allez être responsable du développement, vous allez être responsable de l'évaluation peut-être des personnels, parce qu'il y a tous les personnels de droit local et vous allez devoir assumer cette responsabilité d'évaluation. Vous allez participer au rendez-vous de carrière pour le premier et le second degré, vous allez être seul. Vous n'allez pas être accompagné par les corps d'inspection comme c'est en France. Donc, vous voyez bien que la mission, elle est beaucoup plus large. Et je ne prends que quelques domaines. Elle est beaucoup plus large que celle que vous avez l'habitude d'exercer, surtout dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, le risque qui pourrait arriver, c'est l'isolement. Sachez que tous les services de l'agence sont à votre disposition. Il n'y a pas de mauvaises questions si vous êtes recruté. L'erreur, c'est l'isolement. Et le risque, c'est l'isolement. Donc, nous sommes ici à votre écoute, à votre disposition. Et si vous nous interrogez à nous et que ça nous qu'on n'a pas la bonne réponse, Virginie, moi, mes collègues, on transmettra à la bonne direction qui vous répondra. Donc ça, l'isolement peut être au cœur du risque à encourir. Le troisième et dernier mot que je voudrais employer avec vous, mais vous le connaissez, il fait partie de votre ADN, je dirais, c'est la loyauté. La loyauté à l'AEFE. La loyauté à l'employeur, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc, et parfois, c'est pas toujours facile parce que vous allez être dans des postures, vous allez être soumis à des pressions et n'oubliez jamais qui vous a recruté et qui vous paye. Et à partir de ce moment-là, interrogez-nous. Si à un moment donné, vous êtes dans un doute, vous avez une pression qui fait que vous êtes embêté, ben le mieux, c'est d'en parler, c'est de revenir vers nous pour éviter qu'il y ait des dysfonctionnements et qu'il y ait des problématiques ensuite à gérer en termes, si vous voulez, de posture et de positionnement. Parce que je ne l'ai pas mis dans ces trois mots-là, mais et on en reparlera alors pour ceux qui seront élus et qui viendront avec nous au séminaire de rentrée. Un autre élément qui est au cœur du personnel d'encadrement, du personnel de direction, c'est la posture. C'est la posture. Et encore plus à l'étranger. Nous sommes très attachés, parce qu'on est un ministère, on dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on est très attachés pour vous, messieurs, c'est qu'on soit tous les jours en costard-cravate au bureau. C'est peut-être démodé, mais ça fait partie d'une posture à laquelle les ambassadeurs sont très attachés, à laquelle grand nombre de parents d'élèves ou du pays dans lequel nous sommes sont très attachés. Donc, dans cette posture-là, il y a la posture que l'on a en termes, si vous voulez, d'image que l'on renvoie, et puis il y a la posture au niveau de vos expressions et au niveau des courriers que vous allez faire. Tous les mots à l'étranger, en France, vous êtes habitués maintenant, hein, les réseaux sociaux nous ont habitués à être très attachés à ce que nous écrivons et à ce que nous disons, mais à l'étranger, ça existe énormément. Et les parents d'élèves fonctionnent en réseau, et les professeurs fonctionnent en réseau, et les organisations syndicales fonctionnent en réseau. Et donc très vite, si nous vous recrutons, ils vont savoir d'où vous venez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, et ils vont se renseigner. Donc soyez attentifs à la manière dont vous utilisez les réseaux sociaux, à titre professionnel bien entendu, mais aussi à titre personnel. Soyez très attentifs. Et cette posture, elle sera quand même au cœur de la mission pour laquelle nous vous recruterons. Ça fait partie vraiment des choses fondamentales qu'il faut que vous ayez en tête.
Peut-être, Fabienne, juste quelques mots sur le retour en France.
Oui, alors vous n'êtes pas encore parti, mais effectivement, ce sont souvent des questions qui nous sont posées. Le retour en France, en fait, l'AEFE vous accompagne au mieux en fait au moment du retour en France. Après, c'est la direction de l'encadrement au niveau du ministère en fait qui gère l'affectation suite au retour en France. Le principe en fait, c'est de participer au mouvement qui est du coup un mouvement national pour vous. Et en fonction des vœux que vous avez formulés, effectivement, vous êtes affecté sur les établissements qui correspondent au mieux à votre expérience et aux vœux que vous avez formulés.
Il y a un service d'accompagnement maintenant de plus en plus quand même présent et personnalisé au niveau de la direction de l'encadrement. Peut-être revenir pêle-mêle sur quelques...
Alors, juste un mot là-dessus, peut-être pour compléter, avec une petite nuance quand même qui est importante, c'est que vous savez, vous connaissez très bien que l'affectation, après, elle dépend des rectorats. C'est-à-dire que nous, on a, si vous voulez, au niveau de la direction générale de l'encadrement, on a des relations et on saura vous accompagner dans ces retours ou ces réintégrations. En revanche, après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la partie affectation rectorale, mais vous le savez mieux que moi, et aujourd'hui, on connaît cette tension et cette pression en France. Et sachez, alors je le dis d'une manière claire aussi, qu'on n'est pas attendu quand on rentre de l'étranger. On va être plutôt regardé avec un œil, peut-être parfois en disant celui-là, il prend la place de quelqu'un qui attend ce poste depuis des années, et on nous renvoie ce monsieur ou cette dame qui revient de je ne sais où. Donc voilà, mais on a une relation, comme le disait Virginie, très privilégiée et que l'on entretient avec la direction de l'encadrement, parce que pour nous, ces retours, ils sont importants. Vous allez acquérir de nouvelles compétences. Il y en a une dont je n'ai pas parlé, mais qui est au cœur aussi de la mission, c'est le recrutement. Le recrutement des personnels. Alors, vous en faites un petit peu depuis longtemps maintenant dans les établissements. Alors, d'autant plus si vous recrutez des auxiliaires d'éducation, mais vous avez des contractuels. Enfin, voilà. Le recrutement commence. Mais à l'étranger, c'est au cœur de votre mission. C'est au cœur de votre mission. Donc, vous allez acquérir des compétences et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces compétences soient reconnues par les secrétaires généraux, par les directions des ressources humaines des académies, pour que ensuite on puisse travailler avec vous sur ces réintégrations. Vas-y, je t'en prie.
Alors, une facile, simplement pour dire que tous les postes qui figurent sur le site sont bien ouverts au recrutement. Voilà. Y a-t-il une limite d'âge pour candidater? Comme on vous l'a expliqué, le contrat pour nous, c'est 3 plus 1 plus 1. L'objectif, quand vous partez, c'est de partir avant l'âge limite de départ à la retraite, en fait, pour pouvoir obtenir un détachement et pour pouvoir faire un contrat, et un contrat au moins de 3 ans, sans quoi il n'y a pas de sens et il y a peu de chances que vous obteniez de toute façon un détachement. S'agissant des fermetures de poste à l'initiative de l'agence avant cette fameuse période de 5 ans, évidemment, il y a une possibilité pour les collègues qui n'ont pas choisi de pouvoir candidater sur la même zone, sur un poste dans la même zone.
Pour quelqu'un qui est déjà à l'étranger.
Pour quelqu'un qui est déjà à l'étranger dans la zone.
C'est pas la manière dont nous recrutons les gens.
C'est pas interdit.
C'est-à-dire que c'est pas interdit, mais notre objectif à nous, c'est d'utiliser les compétences acquises dans une zone pour aller dans une autre zone du monde. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait, si vous voulez, une sorte de réseau à l'intérieur d'une zone géographique où les gens passeraient d'un bahut à un autre, d'un endroit, d'une ville à une autre pour rester dans une région qu'ils ont connue et dans laquelle ils se sentent bien. C'est pas contre vous, mais c'est on a besoin aussi que notre vivier soit renouvelé, que les gens puissent aller d'un pays à un autre. Et pour ceux qui demandent une deuxième mission, qui sont déjà chez nous là et qui vont partir en deuxième mission, attention, vous avez acquis des compétences, c'est une évidence, hein. Vous avez acquis des compétences, vous connaissez le réseau, vous connaissez nos spécificités, etc. En revanche, une deuxième mission, c'est parfois plus difficile qu'une première. Parce que justement, l'écueil, c'est qu'on pense qu'on sait beaucoup de choses et on oublie parfois d'avoir l'humilité nécessaire à une nouvelle prise de fonction qui remet tout à plat, parce que ce qui est au cœur d'un poste à l'étranger, je l'ai déjà dit, c'est l'adaptabilité, parce que tous les postes sont différents et pour être très clair, tous les postes sont difficiles. Que vous soyez dans un gros poste ou dans un tout petit poste, c'est toujours difficile pour des tas de raisons. Hein, on a eu la Covid comme vous et on s'en est très bien sorti dans le réseau. On a eu des tas de situations problématiques dans des pays en guerre, l'Ukraine, hein, pour ne pas les citer, mais on a le Niger aujourd'hui. Et on continue à être présent différemment dans ces établissements-là, avec des chefs d'établissement. Donc voilà, on a cette volonté d'être toujours de développer nos établissements dans ce réseau avec le souci d'accompagner au mieux ces personnels et donc surtout vous, les personnels d'encadrement.
On avait une question aussi un petit peu sur les missions des postes d'adjoints que l'on propose. Elles sont celles qu'un adjoint peut exercer en France, avec une particularité quand même pour le chef d'établissement, qui est de confier à son ou ses adjoints des missions en autonomie, puisque l'objectif pour nous d'un adjoint, c'est de faire un poste d'adjoint, mais le suivant ne pourra pas être en poste d'adjoint dans le réseau, ce sera forcément un poste en responsabilité, un poste de chef. Voilà, c'est notre politique au niveau de l'agence. Donc, quand on est adjoint, on se prépare aussi. On a un contrat, la durée d'un contrat pour se préparer à endosser le costume de chef dans un établissement sur une deuxième mission à l'étranger. Alors, pas dans un établissement de quatrième catégorie, soyons mesurés. C'est nous là qui sommes mesurés et qui vous proposerons un poste qui vous permettra de faire vos armes en tant que chef sans vous mettre en difficulté. Une question, double nationalité, candidater dans le pays de la nationalité?
C'est pas un obstacle, ça peut être compliqué dans certains pays. Voilà, c'est pas un obstacle, mais ça peut être compliqué dans certains pays, parce que dans le pays où vous êtes, la double nationalité n'existe pas, donc vous avez la nationalité du pays dans lequel vous êtes né, par exemple, et donc vous devez, dans le pays où vous êtes, avoir les papiers en règle du pays dans lequel vous êtes. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, c'est pas, on peut candidater pour tous les postes, mais ça peut être difficile. Mais de toute façon, on le dira et on s'exprimera avec vous. Et ça dépend vraiment des pays dans lesquels vous candidatez.
Cellule de soutien social, comme existe en France, non, nous n'avons pas de cellule de soutien social. Nous avons en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique et des services à l'agence qui peuvent vous accompagner en termes de management et de gestion des situations personnelles que les collègues pourraient rencontrer et quelques partenariats privilégiés avec la MGEN, par exemple, et les possibilités de fonds de solidarité, etc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre?
Un point sur les rémunérations. À l'étranger, enfin sur nos postes à l'étranger, il n'y a pas de NBI. Vous allez toucher une bonification indiciaire, donc liée à la catégorie de l'établissement. Nous n'avons pas de NBI ni d'autres indemnités. En fait, tout le régime indemnitaire est repris dans une indemnité unique qui est liée en fait à la catégorie de l'établissement et au pays dans lequel est implanté le poste. Donc voilà, pas de NBI, pas d'indemnité spécifique. On a une question aussi, le salaire est payé en euros. Concernant par contre la fiscalité, il faut être vigilant parce qu'en fait elle est liée aussi au pays d'exercice. Dans certains pays en fait il y a une fiscalité qui est applicable localement, donc on ne peut pas répondre de façon globale, ça dépend aussi des accords entre pays par rapport à cette fiscalité.
Et il est important que vous en preniez connaissance lorsqu'on va vous proposer le poste, enfin, vous l'accepterez, que vous sachiez ça sera écrit dans votre dossier, hein, très clairement, mais il faut que vous ayez cette référence de vous renseigner sur l'imposition dans le pays dans lequel vous allez exercer. C'est quand même, c'est important. Pour les rémunérations, juste un mot, il faut savoir que les personnels de direction nous réclament depuis maintenant de nombreuses années que les mêmes indemnités qui sont versées en France sur la responsabilité, sur les examens, etc., soient versées pour nos collègues. Aujourd'hui, l'agence a essayé de travailler là-dessus, mais pour l'instant, nous avons un refus du ministère du budget qui fait qu'on ne peut pas rémunérer ces indemnités au même titre que ce que vous pouvez toucher en France. Il faut le savoir. Donc, c'est une partie de travail mené avec les organisations syndicales et qui est des discussions qui sont régulièrement remises sur la table et en cours et que nous n'hésitons pas à reporter. Mais là, on a un ministère de tutelle, je vous l'ai dit, c'est le ministère de l'Europe des Affaires étrangères, un ministère important parce qu'il est au cœur de l'homologation de l'éducation nationale, et puis le ministère des Finances qui nous regarde quand même de très très près et qui regarde un petit peu le budget de l'agence et comment on utilise les deniers publics qui nous sont attribués par la plus grosse subvention que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères attribue à son opérateur.
Alors, sur une question, quand on est personnel de direction, on ne peut candidater que sur des postes de personnel de direction. Voilà, un personnel de direction ne peut pas candidater sur un poste de directeur d'école, pour être très clair. De la même manière qu'un conjoint ne pourrait pas candidater étant du premier degré sur un poste du second degré et inversement. Après, on a des questions qui sont un peu trop...
On a pas mal de questions sur les vœux. Alors, le principe, effectivement, c'est que si vous êtes sur un poste de chef, on ne vous recrutera pas sur un poste d'adjoint à l'étranger. Simplement pour un... question de positionnement. Sur les questions sur les catégories, c'est toujours difficile d'y répondre, mais ayez toujours en tête que nos catégories d'établissements, en fait, à l'étranger, correspondent à des catégories, à un nombre d'élèves plus important qu'en France. Donc, ne soyez pas trop...
Rien à voir avec la France.
Voilà, ne soyez pas trop ambitieux dans vos voeux. On a souvent cette question, je suis adjoint, est-ce que je peux demander un poste de chef? Par expérience, la plupart du temps, en fait, les premiers postes à l'étranger, si vous êtes adjoint, c'est plutôt sur un poste d'adjoint. On a des postes d'adjoint de troisième et quatrième catégorie. On peut recruter parfois sur des postes de chef de petits établissements si vous avez été parfois sur des intérims ou faisant fonction sur des postes de chef. Mais la logique est plutôt de refaire un poste d'adjoint à l'AEFE et ensuite le deuxième poste, le deuxième contrat, s'il y a, sera sur un poste de chef.
Vous l'aurez compris, on n'est pas là pour si on vous dit non, si on vous propose autre chose, c'est dans votre intérêt et dans l'intérêt de l'agence. L'objectif n'est pas d'aller vous mettre en difficulté, bien au contraire. L'objectif, c'est que vous puissiez faire une mission à part entière, une mission épanouie. Et qui sera bénéfique à la fois pour vous en termes d'évolution et d'épanouissement professionnel et également pour l'agence et le développement d'établissements dont vous prendrez le pilotage et l'agence en tant que telle. Et donc, ben, pour tout ça, je pense que Fabienne, il y a une chose.
Oui. Et l'une des conclusions, effectivement, de cette intervention, c'est de ne pas hésiter, même de vous inciter à prendre contact avec des collègues qui sont déjà en poste. On en a certains qui sont connectés là aujourd'hui avec nous, mais contactez les collègues qui sont en poste pour avoir effectivement des échanges précis sur la nature du poste, sur la culture aussi, en fait, en fonction du pays dans lequel vous allez postuler. Il y a des points d'attention à avoir et qu'il est toujours intéressant d'avoir au moment de l'entretien ou si on vous propose le poste. Le retour d'expérience des collègues est aussi très intéressant et certains ont déjà préparé en fait des fiches réponses ou vous proposeront même des entretiens par Zoom ou par téléphone. Donc n'hésitez pas, surtout si c'est votre première candidature, à contacter plusieurs chefs d'établissement ou adjoints, si vous êtes adjoint, pour avoir des informations vraiment de terrain.
Vous pouvez ne pas avoir de réponse aussi, il faut s'y attendre. Hein.
Oui, ça arrive. Ouais.
Malheureusement, c'est ça. On va relancer nos collègues là pour que leur rappeler que c'est important qu'ils trouvent le moment de disponible pour échanger avec vous et pour pouvoir vous répondre aux questions qui sont les vôtres. Mais je crois que ça peut arriver et on va essayer de rappeler à tout le monde la nécessité d'être disponible pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de notre webinaire. Donc écoutez, alors peut-être un dernier élément. Cette candidature que vous allez faire là si vous l'avez pas encore envoyée dans les jours qui arrivent, il faut vraiment que vous n'attendiez pas la sélection que l'on va faire pour vous remettre dans le bain de préparer l'entretien. Parce que nous allons vous prévenir peu de temps avant l'entretien. Hein. Malheureusement, il y a une grande étude des dossiers. Il y a plusieurs rendez-vous, puisque le choix se fait avec le ministère de l'Éducation, enfin, avec la direction de l'encadrement, et se fait aussi en interne avec nous. Donc, ça prend du temps, tout ça. Donc, on va vous prévenir peut-être que 3 semaines avant que vous soyez convoqué à l'entretien. Donc, si vous attendez ces 3 semaines, ça nous a été dit quelques fois, je n'ai pas eu le temps de me préparer parce que c'était trop tard. Mais la préparation, elle a commencé, puisque vous êtes déjà intéressé. Vous connaissez les postes que vous avez demandés. Donc, continuez à réfléchir de temps en temps. On sait très bien que vous êtes très sollicité dans vos différentes missions et fonctions, mais continuez à vous intéresser, continuez. La préparation, elle ne se fait pas sur le dernier mois, mais elle doit se faire sur la durée. Et c'est grâce à ça que vous pourrez être prêt pour l'entretien si jamais vous êtes sélectionné, ce qu'on vous souhaite pour beaucoup d'entre vous.
Et comme nous n'avons pas forcément réussi à répondre à l'ensemble des questions, comme l'a proposé notre collègue tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur l'adresse que vous trouvez sur le site et pour les postes de personnel de direction, aefe@diplomatie.gouv.fr.
L'adresse voilà. Est disponible sur le site si vous n'avez pas encore consulté le site de l'agence, il y a vraiment pas mal d'indications qui sont reprises et entre autres, vous avez cette adresse mail pour nous contacter.
Merci beaucoup, très bonne continuation et à très bientôt pour beaucoup, j'espère. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.